un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue?
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain?
Quelle est la puissance des divinités grecques? Qu'est-ce qui fait le dieu ou le héros? S'interroge Vinciane Pirène-Delforge, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. De quelle façon comprendre le terme de daimon qui apparaît dans la poésie en lien avec l'action divine et comment suivre la trace de ces déclinaisons rituelles, demande la chercheuse. Directrice de recherche au Fonds de la recherche scientifique belge, Vinciane Pirène-Delforge a enseigné pendant près de 15 ans à l'Université de Liège, tout en dirigeant l'unité de recherche Histoire et Anthropologie des Religions, avant de rejoindre le Collège de France en 2017. Julie Clarigny a rendu hommage à la chercheuse dans l'article intitulé « Vinciane Pirène-Delforge, sortir des dieux communs » pour le journal Le Monde en 2018. La journaliste rappelle, et je la cite, que le dépaysement est presque une marque de fabrique pour l'école intellectuelle à laquelle appartient Vinciane Pirène-Delforge. Dans le droit fil des grands historiens de la Grèce, tels Louis Gernet, Jean-Pierre Vernant ou son compatriote Marcel Détienne, la Liégeoise fait son miel de l'anthropologie qui permet le décentrement et la comparaison avec d'autres cultures. Le mot puissance, aujourd'hui indissociable dans les journaux de la géopolitique, du nucléaire, ou encore d'une Europe en quête de souveraineté et de sécurité, est aussi riche de la force du vent ou de ce qui pourrait advenir, pour ne reprendre que quelques-uns de ses sens les plus courants. Et dans le monde lointain et exotique de la religion grecque, pour nous qui vivons dans un environnement dominé par les monothéismes et les dogmes, la pluralité du monde suprahumain des Grecs se définit par une multiplicité de figures divines et héroïques, rappelle Vinciane Pirène-Delforge. Dans sa leçon inaugurale donnée en 2017, elle indiquait que chaque entité suprahumaine de cet ensemble pluriel peut être envisagée comme un réseau polycentrique complexe, puisque grâce à Jean-Pierre Vernant, nous avons compris que les dieux grecs étaient des puissances et non des personnes. En 2019, l'historienne anthropologue a ouvert une grande enquête pour saisir ce qu'était un dieu pour les Grecs dans le cadre de sa série consacrée aux dieux, héros et daimones, daimones étant le pluriel du mot daimon, qu'on se gardera de traduire par démon. Pour les Grecs, selon une maxime antique citée par Vinciane Pirène-Delforge, qu'est-ce qu'un dieu ? La puissance. Ou plutôt l'exercice du pouvoir, précisait la chercheuse en 2019. Or, notait-elle encore, le terme de daimon est intimement lié à la puissance d'action d'un dieu dont les effets se font sentir parmi les hommes. La chercheuse a montré que l'étymologie du mot daimon en fait un agent dispensateur et distributeur. Par ailleurs, note encore la chercheuse, les daimones deviennent des dieux situés sur terre parmi les hommes. C'est leur caractère topique qui explique pourquoi Platon opère une classification des entités suprahumaines à honorer, dans sa cité idéale, en trois ensembles, dieu, daimones, héros, à savoir les divinités olympiennes, voire panhelléniques, les divinités du terroir et les héros. Poursuivant l'investigation ouverte en 2019 sous le titre « Dieu, daimones, héros », Vinciane Pirène-Delforge propose de comprendre la dimension culturelle du daimon quand il est qualifié de bon daimon, agathos daimon, en relation avec Dionysos, mais aussi la bonne fortune, agathé tuké, et un Zeus local, voire familial, pourvoyeur de bienfaits. Dès lors, depuis les inscriptions sur les vases grecs jusqu'aux comédies d'Aristophane, de quelle façon l'agathos daimon est-il associé à un type de vin et à des libations? Nous gagnons le Collège de France le 23 janvier 2020 pour le cours de Vinciane Pirène-Delforge, aujourd'hui agathos daimon en contexte dionysiaque.
Bien, bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui me suivent depuis le début et aussi à ceux qui nous rejoignent. J'ai l'intention de poursuivre cette année le décryptage de la catégorisation du monde suprahumain entamé lors des cours de 2019. L'an dernier, j'ai abordé l'analyse de la notion de daimon et tenté de comprendre les différents usages du terme dans la poésie épique, avec l'Iliade, l'Odyssée, la poésie didactique, les travaux et les jours d'Hésiode, et dans la poésie épique, j'ajoute évidemment la théogonie. Également dans la poésie lyrique, avec les épinicies de Pindare, et enfin les tragédies, avec les trois grands auteurs athéniens du Ve siècle, Échille, Sophocle et Euripide. Mais comme l'étude du polythéisme grec, et maintenant vous le savez, l'étude du polythéisme grec ne peut se résumer à l'étude des poètes, aussi fameux soient-ils, et ceux que nous avons vus l'année dernière le sont assurément, je n'ai jamais perdu de vue la question de départ de mon investigation, fondée sur quelques modestes lamelles de plomb mises au jour dans le sanctuaire de Dodone, sanctuaire oraculaire de Zeus et de Dionée. Et je vous en rappelle le contexte et les termes. Je lis la traduction avec vous, donc de cette modeste lamelle de plomb publiée par Éric Claute en 2006. Je lis donc la traduction. « Dieu, bonne fortune, Evandros et sa femme demandent à Zeus, Naios et à Diona, auquel des dieux ou des héros ou des daimonos, adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux et avec profit, eux-mêmes, aussi bien que leur maisonnée, maintenant et pour toujours. » Et ce n'était pas un apax, ce n'était pas un cas unique. D'autres lamelles, alors certes proportionnellement en nombre limité par rapport à l'ensemble du corpus, mais néanmoins, d'autres lamelles évoquaient aussi le profil du daimon. Vous avez ici donc deux lamelles publiées dans le corpus publié par des collègues grecs en 2013. Dieu, Damainetos, à propos de Proxénos, comment il réchappera de Mélitéia, donc c'était un lieu dit, et auquel des dieux ou des daimones adressaient des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent aux dieux. Autre exemple, plus bref, et auquel des dieux ou des daimones sacrifiaient pour agir au mieux et avec profit. Alors, nous avons vu l'année dernière, je résume brièvement, parmi les requêtes oraculaires, la question de savoir quel dieu honorer pour obtenir un bienfait est récurrente. Et elle est évidemment intimement liée à l'offre divine abondante, et pas uniquement divine d'ailleurs, comme nous le verrons dans les semaines qui viennent, l'offre divine abondante, polythéisme oblige, et donc cette question n'a rien d'étonnant dans un cadre où ce monde suprahumain est extrêmement fréquenté. Alors, on le voit, diverses variations affectent la formule initiale utilisée, donc, et parmi ces variations, on voit surgir des héros, des daimones, en plus des dieux, comme destinataires potentiels des prières et des sacrifices. Et c'est évidemment ces lamelles de Dodone qui justifient le titre générique que j'ai donné à mes cours de ces deux années. Cela signifie, et c'était une des conclusions auxquelles j'étais arrivée l'an dernier, qu'au moment de concevoir un acte rituel, puisque la prière et le sacrifice, c'est bien de cela qu'il s'agit, donc au moment de concevoir un acte rituel, un daimon peut être conçu comme destinataire de l'acte en question. En revanche, au moment de l'actualisation, la performance, dit-on en allant emprunter au vocabulaire anglais, la performance du geste rituel, au moment de sa réalisation concrète, l'entité divine en question porte un nom propre. L'ancrage rituel rend apparemment inutile le recours au terme marqué de daimon en tant qu'agent divin en action. C'était, dans les grandes lignes, une des conclusions auxquelles nous étions arrivés. J'avais donc conclu le cycle de cours de l'an dernier sur le constat que le daimon était un agent répartiteur de biens et de maux parmi les hommes, tout autant qu'un agent manifestant l'un ou l'autre aspect de la puissance d'un dieu en la distribuant elle aussi. Et je fais une sorte d'autocitation du cours du 18 avril dernier. Ce sont les deux faces complémentaires de l'instance distributrice, qui est un daimon, une dimension qui exprime son nom même. Je ne reviens pas sur l'étymologie du terme que j'avais évoqué l'an dernier. Donc, parler de l'action divine dans une œuvre poétique, voire même en prose, peut faire surgir la notion de daimon. Mais quand il s'agit de solliciter une intervention divine par le biais d'un rituel, l'adresse alors formulée impose une dénomination spécifique, précisément pour ne pas se tromper d'adresse. C'est en ce sens que l'on peut comprendre, me semble-t-il, et c'était une autre de mes conclusions, certains types d'épiclases et de noms divins associés. Je reprends les exemples que j'avais évoqués à la fin du cours. Donc, quand on trouve Zeus Eumenes associé aux Euménides, ou Zeus Moirajet associé aux Moires, Zeus Omonoios associé à Omonoia, Apollon Nymphaget associé aux Nymphes, les articulations entre ces différentes entités sont limpides par le partage des noms. Les entités associées au nom de Zeus et d'Apollon distribuent en quelque sorte la puissance du dieu qu'elles qualifient ou qu'elles accompagnent. Alors, je reviendrai sur Apollon et les nymphes lorsque nous étudierons les nymphes dans quelques semaines, mais je constate pour l'instant la prédominance de Zeus dans ce type d'articulation. Et j'en viens à présent à un daimon nommément actif dans des contextes rituels et avec le titre explicite de la leçon d'aujourd'hui. Nous allons donc pister la déclinaison rituelle du daimon, puisqu'elle existe sous la forme de la gathos daimon que j'avais annoncée plusieurs fois l'année dernière sans avoir le temps de m'en occuper dès 2019. Alors, pour ouvrir cette investigation, je voudrais vous soumettre un document qui a été mis au jour au nord-est de la mer Égée, dans l'île de Thasos. En effet, une inscription datant de la charnière entre les 4e et 3e siècles, vous voyez, c'est plus ou moins 300 avant notre ère, porte une dédicace à la gathos daimon. Or, une dédicace, c'est un geste rituel. Une dédicace à l'Agathos Daimon de la part de magistrats locaux que l'on appelle les apologoi, donc des apologues, dira-t-on en français. Ce sont des magistrats qui sont chargés de la reddition des comptes, sont des contrôleurs de comptes, si vous voulez. Et ces contrôleurs des comptes étaient au nombre de 7. Bon, je n'ai pas traduit les 7 noms, mais vous voyez qu'ils sont là avec leur patronyme. Et donc, ils ont consacré, peut-être un objet sans doute, mais l'objet lui-même est perdu, à l'agathos daimon. Donc vous voyez cette notion de daimon qui surgit en contexte parfaitement rituel. Alors, deux éléments de contexte sont à prendre en compte face à ce document, très modeste, hein, mais très intéressant. Tout d'abord, ce document s'inscrit dans une série de dédicaces de l'île offerte par des magistrats, hein, puisque nous avons ici affaire à un groupe de magistrats dans l'exercice de ses fonctions. Et on a d'autres exemples. Thasos est une île où beaucoup d'inscriptions de ce type ont été mises au jour, avec des dédicaces de magistrats, d'autres types, pas uniquement des apologues, à des dieux comme Hestia, déesse du foyer du Prytané, à Hermès, à Aphrodite, ensemble ou séparément. Et c'est un dossier qui a été très bien étudié il y a déjà pas mal d'années par François Salvia dans un article important qui s'intitule « Dédicace de magistrats à Thasos » publié dans le bulletin de correspondance hellénique. Donc divers groupes de magistrats thasiens, dont les épistates, les agoranomes, les apologues, ont posé ce type de geste rituel probablement à la fin de leur mandat. Ce n'est pas explicite dans le cadre de l'inscription des apologues, mais dans d'autres inscriptions et ailleurs aussi qu'à Thasos, on voit que ce processus de dédicace intervient souvent à la fin de la charge. À Thasos même, d'autres apologues, au milieu du IVe siècle, donc un peu avant l'inscription, la première inscription que je vous ai montrée, avaient fait une consécration à Hestia. Alors, on doit la restitution, mais qui est sûre en dépit du nombre de lettres pointées ou de lettres restituées, on doit cette restitution à Jean Pouilloux, hein, qui a fait une étude encore fondamentale aujourd'hui sur l'histoire de l'île et de ses cultes. Et donc, d'autres apologues avaient fait une dédicace à la déesse Hestia, et la dédicace est difficilement lisible, mais la restitution de Pouilloux me semble tout à fait fiable. Alors, ces apologues avaient consacré donc à Hestia la déesse du foyer civique, sans doute une statuette de bronze, si l'on en croit les enchâssements qui se trouvent au-dessus de cette stèle de marbre blanc qui porte donc l'inscription. Donc voilà pour le premier élément de contexte de cette dédicace à l'Agathos Daimon par les apologues. Alors, le deuxième élément donc, de contexte de l'inscription ici, le deuxième élément est le lieu de trouvaille de cette inscription. En effet, nombre de ces fameuses inscriptions étudiées par Salvia ont été découvertes près de l'Agora, enfin sur l'Agora. Donc ici, voilà un plan de Tassos, donc alentour de l'Agora. L'inscription dont je vous parle a été mise au jour dans les années 1920 dans l'une des maisons turques qui occupait la partie orientale du sanctuaire de Dionysos. Or, avec le Dionysion, nous sommes ici. Donc, on n'est pas très loin de l'Agora, mais on est plus près du Dionysion. Or, et c'est ça qui m'intéresse, à l'intérieur même du Dionysion de Tassos, c'est-à-dire donc le sanctuaire de Dionysos, dont vous avez ici un plan, alors c'est cette partie-là qui a été fouillée, avec donc ici une reconstruction axiométrique de l'édifice qui est ici, une sorte d'exèdre dans lequel se trouvaient des statues. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les deux éléments que vous avez sur le plan. Donc vous voyez ici un autel, ce qu'on appelle un autel à hante, donc avec des côtés qui reviennent, et à côté, un autel creux, qui est donc constitué de quatre plaques de marbre qui sont revêtues à l'intérieur. Et donc, c'est cet autel creux qui m'intéresse. En effet, il m'intéresse parce que sur l'un de ces longs côtés se trouvait inscrite l'injonction suivante qui est datée du tout début du IIIe siècle. Donc, on voit la même date que la dédicace des apologues. Et donc, vous voyez cette dédicace qui est au datif, donc Agatho Daimoni, Agathe Tuche Houtemis, que je traduis à Agathos Daimon, à Agathe Tuche, ce n'est pas religieusement permis. C'est comme cela que je traduis le Houtemis qui est restitué. Alors, la restitution est certes importante pour reconnaître le destinataire divin qui nous intéresse, mais deux arguments plaident en sa faveur. Tout d'abord, le remploi de la dédicace des contrôleurs des comptes dans une maison voisine du Dionysion, puisqu'on a là une très grande proximité de découverte, même si l'inscription des apologues n'a pas été trouvée in situ, on peut faire l'hypothèse qu'elle n'a pas beaucoup voyagé. Et ensuite, ce qui conforte cette restitution, c'est l'association récurrente entre Agathos Daimon et Agathe Tuche dans l'ensemble de la documentation grecque. Une Agathe Tuche que je traduirai en première approximation, j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, par bonne fortune. Il ne s'agit pas, dans ce cas-ci, d'une dédicace, même si on a un datif. Il ne s'agit pas d'une dédicace, mais d'une norme rituelle, à savoir une prescription qui vise à clarifier pour les participants au culte ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Et là encore, peut-être une remarque à propos de la restitution de la négation ici. Vous pourriez me dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on met une négation alors qu'on n'est pas sûr? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une injonction en positif? Là encore, c'est le contexte qui le justifie. À Tassos, on a une concentration tout à fait exceptionnelle par rapport au reste du monde grec d'injonction avec le négatif outémis. Donc là, c'est par comparaison avec ce dossier que la restitution s'est faite ainsi. Donc, il s'agit, sur la face latérale de cet autel creux, de signifier aux participants au culte ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, la présente inscription regroupe les deux faces d'une action rituelle, positive et négative, puisqu'il convient d'honorer Agathos Daimon, mais il faut s'abstenir de le faire pour Agathe Tuche. Or, par l'interdiction d'offrir quoi que ce soit à cette dernière, la prescription atteste que le premier mouvement des acteurs du culte aurait été d'honorer les deux. Donc vous voyez en creux, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, puisque l'autel est ainsi, vous voyez en négatif se profiler l'association récurrente de l'Agathos Daimon et de l'Agathe Tuche dans les démarches rituelles des Grecs. Donc, dans le cas présent, au cœur même du sanctuaire de Dionysos, Il s'agit avant tout d'un agathos daimon lié à ce dieu. Donc l'inscription, vous le voyez, est datée à la charnière, elle aussi, du 4e et du 3e siècle avant notre ère, mais la structure architecturée sur laquelle elle a été inscrite pourrait remonter à la période archaïque. C'est-à-dire, donc, ce sont des structures évidemment difficiles à dater, mais c'est une hypothèse des fouilleurs que je suis volontiers. Donc une structure elle-même qui pourrait être archaïque et donc remontée au premier temps du sanctuaire lui-même. Donc je vous l'ai dit, elle est faite de 4 dalles de marbre, doublées d'un revêtement autour d'un foyer creux. Et à la fin du 5e siècle ou au 4e siècle, a été construit donc cet autel à table inantis, dit-on dans le vocabulaire des archéologues. Puis ce monument, exèdre avec ses statues, a été construit au IIIe siècle. Donc ce que vous voyez ici de façon synchronique, donc, c'est inscrit dans la continuité de l'aménagement du sanctuaire. Donc l'inscription a été apposée sur l'autel creux entre la construction du deuxième autel et l'érection du monument voisin. Cette brève prescription rituelle tasienne confère donc une incontestable consistance cultuelle à l'entité divine qu'est l'agathos daimon. Donc vous voyez à la fois la dédicace des apologues et cette norme rituelle sur l'autel attestent que l'agathos daimon faisait bien l'objet de démarches rituelles. Donc voilà, premier élément de mon dossier, le cas de Tassos. On se transporte maintenant en mer Noire, autour de la mer Noire, donc plus au nord, et une série de tessons de céramique portant des graffitis a été mise au jour dans différentes cités. Vous voyez ici, on a Raïka, Olbia, Panticapé, et puis une dédicace cette fois-ci, mais je vais y arriver. Et cet ensemble documentaire date du 5e siècle avant notre ère. Donc c'est un peu plus ancien que le dossier tasien que je viens de vous montrer. Alors, ces graffitis mentionnent majoritairement des noms de divinités au génitif. Vous le voyez ici, Dios Soteros, alors peut-être Agathou Daimonos, Dios Soteros Hermeo Agathou Daimonos, Daimonos Agathou, Agathou Daimonos, Herma Agathou Daimonos. C'est assez répétitif, hein. J'ai maintenu, même si le lieu n'était pas spécifié, c'est autour de la mer Noire, mais on ne sait pas exactement d'où vient ce graffiti du 5e siècle aussi. C'est en fait une dédicace d'un certain Dionysios, fils de Diodore, à l'agathos daimon. Bon, donc vous voyez, encore une fois, sur des documents certes modestes, la mention de ce daimon qui s'ancre donc bien en contexte rituel. Donc, il est chaque fois associé soit à Zeus Sauter, donc Zeus Sauveur, soit à Hermès, où les combinaisons peuvent varier. Alors, ça, c'est pour la mer Noire. En Sicile aussi, pour vous montrer que c'est une tendance lourde, même si les documents sont modestes, c'est une tendance lourde au sein de la totalité du monde grec. En Sicile, donc, on a mis au jour aussi des tessons de céramique portant la mention. Alors, Agathos et probablement Daimon aussi. Il y a un tesson qui est très mutilé que je ne vous montre pas, mais voici ici un fragment de cantar à vernis noir, daté de la deuxième moitié du IVe siècle, avec donc cette restitution vraisemblable, encore que nous verrons tout à l'heure, éventuellement on pourrait aussi penser à Théos ici, et il faudra comprendre pourquoi, mais restons-en à cette restitution pour l'instant. Alors, le cantar, ce n'est pas n'importe quel vase, c'est un vase à boire profond, assorti de deux anses, qui manquent évidemment ici, hautes, et parfois d'un pied, et l'iconographie en fait volontiers un attribut de Dionysos, ce qui l'associe évidemment tout particulièrement à la consommation de vin, comme le montre ici cet amphore attique à figure noire, donc nous sommes dans la deuxième moitié du VIe siècle, et vous voyez que Dionysos est face à deux ménades qui tiennent de jeunes animaux, et il tient à la main un magnifique cantar avec ses deux anses verticales et son pied. Donc, le cantar semble être un vase particulièrement, enfin, ne semble pas, est un vase particulièrement associé à la figure de Dionysos et à la consommation du vin. Et, effectivement, je reviens au graffiti, cette fois-ci à Athènes, donc vous voyez que nous sommes partis partie d'un dossier thasien spécifique. Nous avons envisagé des graffitis de la mer Noire, puis de Sicile, et là je reviens à Athènes. Vous avez donc un fragment de Cantare en vernis noir. Bon, là, je n'ai pas de photo de l'objet lui-même, uniquement un dessin de l'inscription, mais a été mis au jour sur l'agora d'Athènes et est daté, lui aussi, de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe. Alors, grâce à cette inscription, vous voyez que l'objet porte, comme les tessons de la mer Noire, des noms de divinités au génitif. Vous avez Philia, Dionysos, Zeus Sauveur, de nouveau, le Zeus Sauter de tout à l'heure, l'Agathos Daimon et l'Agathé Tuké. Le tout, donc, au génitif de possession. C'est pour ça que j'ai traduit « appartient à Philia », etc. Donc, à l'Agathos Daimon, à Zeus Sauter que nous avions vu sur les tessons de la mer Noire, vient s'ajouter à Athènes Philia, la Philia, qui est en fait la divinisation, la personnalisation de l'amitié, de l'affection, qui implique une réciprocité. C'est quelque chose d'extrêmement important, cette notion de philia. Puis on a Agathos Daimon, que l'on avait déjà le long de la mer Noire, et Agathé Tuké, ce qui vous montre que cette association est attendue, ou en tout cas qu'elle est facilement possible, d'où sans doute le houtémis de Thasos, qui interdit, dans ce contexte-là, l'association des deux entités. Alors, dans la série athénienne que vous avez sous les yeux, Hermès n'apparaît pas, alors qu'il était dans la série de la mer Noire, mais vous allez voir que ce n'est que partie remise, car le graffiti de l'Agora fait partie d'une série plus large, dont je voudrais vous dire un mot. En effet, toujours originaire d'Athènes, est attesté à un corpus d'une centaine de vases à boire, à vernis noir, qui porte en inscription le nom au génitif d'une divinité ou de ce que nous appelons un concept comme philia, mais qui est une divinité pour ceux qui l'honorent, que l'on vient de voir sur le graffiti que vous avez toujours sous les yeux. Alors évidemment, la distinction entre ce graffiti et le corpus dont je vous parle, et dont je vais vous montrer un ou deux exemples, c'est que là où on a cinq noms sur le graffiti, on n'en a qu'un seul sur chacun des vases du corpus en question. Alors, quelques-uns de ces vases ont été étudiés en 1910 par Charles Picard, puis d'autres sont venus s'ajouter à la connaissance des chercheurs, et tout récemment, en 2018, Natacha Massard, qui est conservatrice au musée du Cinquantenaire à Bruxelles, a publié une importante étude sur ce sujet, dont je vous mets donc la référence sous les yeux. Donc l'article est en anglais, « Inscribed Black Glaze Attic Vases ». Alors, ces vases inscrits sont donc recouverts du vernis noir caractéristique des cantares que l'on vient d'évoquer et s'échelonnent entre le milieu du IIIe et le milieu du IIe siècle. Ce sont essentiellement des vases à boire. Quand je dis entre le milieu du IIIe, je veux dire le milieu du IVe, pardon. Ce sont donc essentiellement des vases à boire et tout particulièrement des cantares. La part la plus ancienne de cette production, qui est datée entre 340 et 220, donc c'est bien le milieu du IVe siècle, est d'une fabrication raffinée qui est rehaussée d'une décoration dorée, ce qui en fait des objets de valeur. Je vais vous montrer tout de suite une image. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le nom des divinités qui sont concernées par ces inscriptions. Vous voyez qu'on a vu beaucoup de poésie l'année dernière. On va revenir à la poésie dans le cours de cette année. Mais là, je veux vraiment vous emmener dans les aspects les plus concrets de la vie des anciens pour vous montrer que le polythéisme est un tout. Ce n'est pas qu'une affaire de poète. Donc, quatre d'entre eux, donc de ces vases, la première partie de la production porte au génitif le nom de Zeus Sauter, sauveur donc, on vient de le voir systématiquement dans les graffitis que nous avons étudiés, celui d'Aphrodite, à deux reprises, Hermès, le voilà, et les Dioscures. Alors, le vase pour les Dioscures, là, en l'occurrence, l'inscription n'est pas au génitif mais au nominatif, et ce qui est particulièrement intéressant sur ce vase, dont vous voyez qu'il est très élaboré, à la fois dans sa forme et dans sa décoration, Et vous voyez, Natacha Massard l'a très bien mis en évidence dans son article, ici on a la représentation de deux étoiles, au-delà de l'inscription elle-même, qui sont un autre mode de figuration et d'évocation des divinités associées à cet objet, à ce vase à boire. Donc les deux étoiles sont une manière aussi de signifier les Dioscures, au-delà de Castor et Polydeuces, donc Pollux, que l'on trouve inscrit sur le bord de l'objet. Alors, donc ça c'était pour la première partie de la production. Dans l'espace de temps qui court de 325 à 250, la production de ce type de vase est plus commune. Ici, on a, dans la première tranche, on a vraiment des objets très élaborés. Mais elle concerne toujours des vases à boire, avec différentes formes de canthares et quelques autres types également. Je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas mon objet. Et puis, si ça vous intéresse, l'article de Natacha Massard vous informera à cet égard. Donc, le corpus est plus étendu. Dans l'ordre d'apparition du nombre d'occurrences, on trouve inscrit donc Dionysos, Philia, que nous retrouvons ici, donc cette amitié, cette affection réciproque. Et donc, Dionysos et Philia se taillent à peine moins de la moitié des occurrences. Puis on a de nouveau Aphrodite, Hygie, et je dois aussi mentionner dans le registre de la santé, puisque c'est la signification du nom d'Hygie, Amphiaraos et Asclepios. On a Hermès à nouveau, puis Zeus Philios, Zeus Sautar, qui nous est familier, l'Agathé Tuqué, l'Agathos Théos, vous allez voir que ce n'est pas innocent, et on trouve aussi Athéna, Hestia et Catpan. Donc vous voyez que c'est assez large comme échantillon, avec néanmoins une prédominance numérique de Dionysos et de Philia. Alors, comme l'atteste le vase d'Agathos Théos que vous avez sous les yeux, vous voyez que la production est différente de ce que je vous ai montré à propos de Castor et Pollux. Donc, comme l'atteste le cas de l'Agathos Théos, ces canthares, contrairement aux graffitis vus jusqu'ici, sont conçus comme appartenant au dieu qu'ils désignent dès le moment de la conception de leur décor. C'est très important. Ici, vous voyez, le nom est peint. Le nom est peint, donc il s'exprime en même temps que le décor du vase. Les graffitis que nous avons vus jusqu'ici ont été en fait réalisés après la fabrication du vase. Donc, il y a des nuances à introduire dans l'évaluation de l'usage de ces objets. Puisque je vous parle de démarches rituelles, l'usage est fondamental. Ils sont rituels par destination dans ce cas-ci, tandis qu'ils deviennent rituels au moment de leur usage dans le cas des graffitis. Pour comprendre cet ensemble de données épigraphiques, puisqu'il s'agit bien d'épigraphie, même si ce n'est pas des inscriptions sur pierre mais sur vase, il faut convoquer un petit dossier littéraire qui permet de concrétiser l'usage de ces vases. Ce dossier comprend les plus anciennes mentions de l'Agathos Daimon avec les tessons de la mer Noire, documentées par trois comédies d'Aristophane, je vous avais dit, on va revenir assez vite à la poésie, dont je vous propose de passer en revue les passages concernés. Alors, le premier passage se trouve dans la comédie intitulée « Les cavaliers ». En fait, pour vous donner un peu le contexte de ce passage, deux serviteurs de la maisonnée en question critique un troisième serviteur qui a ravi l'attention de leur maître. Et l'un de ces deux serviteurs, désespéré de l'attitude du troisième, voudrait mourir pour échapper à cette situation, quitte pour cela, rien n'est trop excessif dans une comédie d'Aristophane, à se suicider en buvant du sang de taureau. Il y a des précédents célèbres de suicide par l'absorption de sang de taureau. Et donc, un dialogue s'entame entre ces deux serviteurs désespérés de l'attitude du troisième. Le premier dit « Non, par Zeus, on ne va pas boire du sang de taureau, mais du vin pur de l'Agathos Daimon. »« Ah oui, dit le second, du vin pur, c'est donc de boire qu'il s'agit à ton sens. Comment un homme ivre peut-il trouver une bonne idée ? Vraiment, l'ami, cruche à eau, pauvre radoteur que tu es, le vin, tu oses lui refuser l'invention si injurieusement ? Le vin, que pourrais-tu trouver qui fasse mieux les affaires ? Vois-tu bien quand ils boivent, c'est alors que les hommes sont riches, réussissent dans leurs affaires, gagnent leurs procès, sont heureux, aident leurs amis. Vous voyez la filia qui revient. Ça va vite me chercher un conge de vin que j'arrose mon esprit pour pouvoir dire quelque chose d'ingénieux. Puis j'ai passé un peu du dialogue qui était hors propos. Puis il revient avec le vin. « Allons, verse-moi bruyamment du vin pur, beaucoup, pour une libation. Tiens, et fais la libation de l'agathos daimon. » Et vous avez ici, je vous ai mis le grec, donc « agathou daimonos » au génitif. « Aspire, aspire à l'entrée la liqueur du daimon de Pramnios. » Alors Pramnios, c'était un lieu dit de l'île d'Icaria, d'où le vin était particulièrement bon et particulièrement apprécié des Grecs depuis l'Odyssée. Donc c'est vraiment le daimon du vin. « Oh, agathos daimon, c'est ce que tu veux, toi, et non pas moi. » Donc voilà, première occurrence. Vous voyez ici la mise en scène de l'agathos daimon dans ce dialogue entre ces deux personnages d'Aristophane. C'est le cas aussi de Philocléon dans Les Guêpes, autre comédie, qui, bon, je vous passe le contexte qui n'est pas vraiment intéressant pour mon propos, mais à un moment donné, il y a un jeu de mots, donc que jamais je ne boive de salaire pur. On parle en fait des émoluments qui étaient donnés aux Athéniens pour siéger dans les assemblées politiques, donc que jamais je ne boive de salaire pur, celui de l'agathos daimon. Alors évidemment, il y a tout cet arrière-plan parfaitement connu des spectateurs de la comédie et qui pour nous peut poser problème, mais c'est justement à reconstituer ce contexte que je m'attache. Et enfin, dernier exemple, dans les comédies d'Aristophane, un passage de la paix, donc dans la paix Trigée que vous avez ici, essaye de délivrer la déesse paix afin que justement cet état de paix puisse à nouveau bénéficier à Athènes qui se trouve en état de guerre permanent. Nous sommes sur l'arrière-plan de la guerre du Péloponnèse. Et donc voilà, ils ont presque réussi à délivrer la paix qui a été enfermée par la guerre. « Venez ici tous les gens, dit Trigée, au plus vite avec des pelles, des leviers et des câbles. Voici l'instant où nous pouvons vider la coupe de l'agathos daimon. » Et voilà à nouveau notre agathos daimon au génitif. Donc, comme toujours avec ce genre d'allusion, je le disais il y a un instant, l'auditoire d'Aristophane comprenait immédiatement de quoi il s'agissait, sinon il n'aurait pas ri. Le but, c'est quand même de faire rire, et de faire réfléchir, mais aussi de faire rire. Tandis que nous manquons, nous, modernes, des références nécessaires pour les saisir. Et heureusement que nous avons des lexicographes anciens qui, dès la fin de l'Antiquité, étaient confrontés au même type de problème que nous, en fait, fondamentalement. Mais eux avaient encore à disposition suffisamment de documentation pour répondre à leurs questions. Et donc, je vous soumets ici les explications qui ont été données dès l'Antiquité, ici donc dans le Nomasticon de Pollux, et puis d'autres lexicographes que je vais vous montrer dans un instant. Et Pollux fait en fait une sorte de catalogue des coupes à boire et va expliquer, va justifier le nom d'une de ces coupes à boire, comme suit, je lis avec vous, « Celle d'après le lavage des mains est une coupe à vin que l'on prenait après s'être lavé les mains, ce qui est extrêmement logique. Le nom n'est pas fondé sur la forme du vase à boire, mais sur son usage. Elle était consacrée à Hygie, donc l'Hugieia que nous avons vu tout à l'heure, de même que le troisième cratère était consacré à Zeus Sauter, que revoici lui aussi. Le vin pur d'après le repas était consacré à l'agathos daimon et la dernière boisson à Hermès, donc je vous disais que Hermès, on allait le retrouver, comme le dit Homère, Hermès auquel il verse une libation en dernier. Donc vous voyez ici que le contexte se précise, l'agathos daimon est lié à un type de libation et à un type de vin. C'est ce que confirme Elius Dionysius, un lexicographe, et la Souda, donc la Souda qui nous amène à l'époque byzantine. Donc, sous l'expression agathou daimonos, donc l'agathos daimon au génitif, il le justifie en disant, Elius Dionysius, je lis, les anciens appelaient ainsi le vase à boire que l'on présentait après avoir débarrassé les tables. Et la Souda renchérit, les anciens avaient pour habitude, après le repas, de boire la coupe d'agathos daimon, avalant du vin pur et nommant celui-ci d'agathos daimon, et le vin coupé, celui de Zeus Sauter. Ils appelaient ainsi le deuxième jour du mois. Et à Thèbes, il y avait un héroon de l'agathos daimon. Ça, cette dernière indication pourrait être une interpolation. J'y reviendrai plus tard. Alors, donc voilà le dossier de cet agathos daimon associé à la consommation du vin. Alors, dans une autre œuvre de la fin de l'Antiquité, là, les passages auraient été trop longs, celle d'Athénée de Naucratis. Donc avec Athénée de Naucratis, nous sommes au deuxième siècle de notre ère. Et Athénée, comme vous le savez, est l'auteur d'un banquet encyclopédique dont les convives échangent des propos érudits sur quantité de sujets, dont tout ce qui touche au banquet. Et l'avantage de cette œuvre, c'est qu'on y retrouve toute une série de mentions de poètes, de comédies, qui nous sont définitivement perdues. Et Athénée va citer toute une série de passages de comédies pour nous perdues, qui évoquent les coupes de l'après-dîner en l'honneur de Zeus Sauter, de l'Agathos Daimon et d'Hygie. Mais l'intérêt, c'est qu'il en offre aussi l'étiologie, c'est-à-dire qu'il va nous donner l'explication de cet usage. Et pour expliquer cet usage, il va se fonder sur un traité sur les parfums et les couronnes, donc vous voyez que nous sommes dans le contexte du banquet, d'un médecin du nom de Philonides, inconnu au bataillon, et l'œuvre est perdue. Mais que nous dit Athénée ? Que lorsque le vin fut connu des hommes, ils en usèrent d'abord sans le couper. L'ivresse s'empara dès lors des convives qui se mirent à délirer. Hein, vous imaginez la scène. Une tempête survint, nous sommes dans une étiologie, donc il y a une histoire justificative. Une tempête survint qui poussa les convives à se mettre à l'abri. Manifestement, la consommation du vin avait lieu en plein air. La pluie commença dès lors à tomber dans les coupes de vin. Et par ce mélange, aussi bienvenu que fortuit, les convives reprenant place purent désormais profiter sans mal de ce plaisir divin. C'est pourquoi, dit-on, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une étiologie, donc d'un récit des causes, quand le vin pur est servi en marge du repas, les Grecs invoquent l'Agathos Daimon, honorant ainsi celui qui l'a découvert, à savoir Dionysos, donc c'est toujours l'étiologie d'Athénée. Et avec la première coupe de vin mélangée, cette fois, servie après le repas, ils invoquent Zeus Sauter, parce qu'ils présument qu'en tant qu'origine de la tempête, il est l'auteur de la mixture bénigne qui dérive du mélange du vin et de l'eau. On a la même étiologie quelques siècles auparavant chez Diodore de Sicile, qui rapporte à peu près la même chose. Et Plutarque, et là nous sommes donc à la transition entre 1er et 2e siècle de notre ère, associe quant à lui le sacrifice à l'Agathos Daimon à la dégustation du vin nouveau. Donc vous voyez que nous sommes toujours dans ce registre. Au premier mois après l'hiver, que ce soit en Béotie ou en Attique. Et tout cela donnait lieu à des fêtes officielles dans les calendriers des cités. Donc ce faisceau d'éléments auxquels on peut associer l'autel en creux du Dionysion de Thasos permet de circonscrire un cadre dionysiaque pour ancrer l'Agathos Daimon dans une de ses déclinaisons rituelles, ce que la céramique attique va expliciter d'une autre manière encore. Et je vous montre un document. Il s'agit d'une coupe dont vous voyez qu'elle est fragmentaire. Donc, voilà l'intérieur, je suis désolée, je n'avais pas de meilleure photographie. Donc c'est une coupe fragmentaire qui provient de l'Acropole d'Athènes et qui semble avoir été fabriquée à des fins d'offrande et non d'usage parce que l'intérieur est fabriqué, réalisé selon la technique à fond blanc, qui est sans doute trop fragile pour recevoir du vin. Et cette coupe date des débuts du 5e siècle. Donc ça nous ramène à la toute fin, à l'extrême fin de la période archaïque. Au tout début de la période classique, selon la limite telle qu'on la pose. Alors, un des fragments de cette coupe a été perdu depuis son édition en 1870, mais François Lissarague en a réalisé un dessin en intégrant la pièce désormais manquante qui est ici, dans l'ensemble. Alors, vous voyez donc un homme couronné qui a l'air d'être assis, avec une lance négligemment déposée sur son épaule, qui profère des sons en tenant manifestement un vase. Alors, le statut de cet homme barbu qui invoque Zeus Sauter, donc nous sommes à nouveau dans le contexte qui nous occupe, le statut de cet homme, avec une fiale donc à la main ici, reste difficile à définir parce que la combinaison d'un contexte symposiaque, donc le contexte du banquet où avait lieu la consommation de vin, et la présence de la lance reste un petit peu curieuse. Alors, sur l'autre côté de la face externe de la coupe, coupe, on a donc une main qui tient un canthar, vous reconnaissez le vase que je vous ai montré jusqu'ici, et est entourée de l'affirmation à la première personne du singulier, je fais une libation au daimon, agathos. Donc, revoici notre agathos, daimon. Et on voit distinctement, par la présence des deux articles, dans la composition de l'inscription, qu'agathos est en position d'épithète par rapport à daimon. Donc, il s'agit de la mise en scène explicite de ce qu'Aristophane détournait dans ses comédies et que les auteurs tardifs que je viens de vous montrer explicitaient, à savoir la libation au bon daimon ouvrant le symposium. C'est en revanche au vocatif que sont invoqués Zeus aux terres et peut-être d'autres dieux, mais vous voyez que là on est mal outillé pour aller plus loin, peut-être d'autres dieux, mais cela ne fait pas pour autant de cette invocation un simple toast, vous voyez, comme nous faisons nous-mêmes lors de nos repas ou d'autres occasions ou des apéritifs. Il s'agit en fait d'une démarche rituelle, de libation à l'agathos daimon dans un cas, de libation avec invocation explicite à Zeus Sauter dans l'autre. Donc, vous voyez que le dossier s'enrichit ici d'une dimension davantage iconographique. Alors, les graffitis de la mer Noire dont nous sommes partis, le fragment de Cantar Siciliote, le fragment de l'Agora d'Athènes, les textes d'Aristophane et le vase que l'on vient de décrire attestent la présence d'un rituel de libation pour le bon daimon dans le cadre du symposium. Mais vous aurez remarqué que dans les vases étudiés par Natacha Massar, dont je vous ai donné la liste tout à l'heure, on n'a pas l'agathos daimon. Et Natacha Massar se posait la question. Elle faisait l'hypothèse, elle, pour résoudre cette absence, qu'un vase spécifique était peut-être réservé à l'agathos daimon, ne justifiant pas dès lors qu'on inscrive le nom du destinataire divin sur ses flancs. La présence d'un canthar sur le fragment que vous avez sous les yeux et la nature des vases fragmentaires que nous avons vus jusqu'ici ne soutiennent pas véritablement cette hypothèse. Dès lors, pour affronter ce qui apparaît comme un paradoxe, revenons à l'agathos théos, qui lui est bien présent. Qui est ce bon Dieu? Parce que c'est ça que signifie agathos théos. Qu'est-ce que ce bon Dieu et que signifie un bon Dieu? Afin de répondre à cette question et de poursuivre donc notre investigation sur l'agathos daimon symposiaque, donc l'agathos daimon en contexte dionysiaque, je vous soumets un fragment de l'Atidographe Philochore, conservé donc par Athénée de Naucratis. Je vous disais qu'il nous avait conservé bien des œuvres qui sont perdues. C'est le cas des travaux de Philochore. Malheureusement, ça nous est perdu. Et ce texte rassemble de précieuses informations qui nous renvoient à nouveau, mais dans une autre perspective, vers l'étiologie de l'intégration du vin dans la vie collective. Et quand je dis que c'est une autre perspective, parce que c'est la perspective athénienne cette fois. Les étiologies que je vous ai données, que je vous ai présentées jusqu'ici, donc celles d'Athénée et celles de Diodore de Sicile, prenaient, je dirais, un point de vue surplombant de l'ensemble du monde grec et de la consommation du vin. Philochore étant un auteur qui travaille sur les traditions athéniennes, son point de vue va évidemment être athénien. Et il va adapter cette étiologie, qui est une chose très flexible, à la situation athénienne. Et je lis le texte avec vous. Philochore dit que, puisque Athénée cite Philochore dit que Amphictyon, roi des Athéniens, qui avait appris de Dionysos à couper le vin, le mélangea pour la première fois. C'est pourquoi les hommes qui le boivent ainsi restent droits, alors qu'auparavant ils étaient pliés sous l'effet du vin pur. Vous voyez, c'est la folie qui s'empare des consommateurs de vin dans l'étiologie d'Athénée. C'est la raison pour laquelle, et donc vous voyez, on est vraiment dans une logique d'étiologie, hein, c'est la raison pour laquelle on a établi un autel de Dionysos Orthos, le droit, dans le sanctuaire des Horaï, donc des heures. Il a également établi la règle de servir, après le repas, du vin pur juste pour goûter, en manifestation de la puissance de l'agathos théos, et je vous ai mis en évidence la partie du texte qui est en grâce, « Deigma tes dynameos tu agatuteo ». Le reste étant, je poursuis le texte, le reste étant alors mélangé selon ce que chacun souhaite. Vient après lui le nom de Zeus Sauter pour l'édification et la mémoire des buveurs, puisqu'en buvant ainsi, ils seront fermement préservés, hein, l'eau qui vient dans le vin, etc. Donc ce passage d'Athénée, paraphrasant Philocore, livre une clé essentielle pour comprendre l'agathos daimon en contexte dionysiaque. En fonction de ce que nous avons vu déjà, en 2019, sur le daimon en tant qu'action d'un dieu, le daimon en tant que manifestation d'une puissance divine, ce que j'ai rappelé dans l'introduction tout à l'heure. En utilisant la formule agathos theos, Athénée, ou peut-être Philocore, à partir du moment où la paraphrase par Athénée est fidèle au texte original, Athénée, ou Philocore, opère en fait un raccourci assez remarquable. Ce n'est pas le théos qui est agathos, c'est le vin qu'il donne aux hommes qui est un agathon, un bienfait. Diodore l'écrivait aussi, donc après l'étiologie sur la pluie de Zeus qui tombe dans les coupes de vin. La reconnaissance des hommes va particulièrement au dieu associé à la découverte des bienfaits pour l'humanité, en l'occurrence Dionysos pour le vin, nous dit Diodore, et Déméter pour les céréales et l'alimentation en général. Donc les agathas attendus par les hommes sont, dans un premier temps en tout cas, ceux qui garantissent leur survie et qui ajoutent même un plus dans le cas du vin. Goûter du vin pur, nous dit Athénée, c'est expérimenter la puissance de Dionysos, sa dynamis. Vous avez ici le nom au génitif. Et parler de la dynamis de l'agathos theos, c'est en fait gloser l'expression agathos daimon, puisque daimon est précisément un terme qui peut désigner la puissance en action. Diodore le disait aussi en associant l'ivresse à la mania, la folie qui est la manifestation dionysiaque par excellence. Et donc, de la même manière qu'Homère affirmait déjà que les dieux étaient redoutables quand ils apparaissaient directement, il y a un vers célèbre à cet égard, le vin doit être coupé d'eau pour ne pas livrer les buveurs à la puissance brute et donc brutale du dieu qui se manifeste dans le liquide. Et donc l'agathos daimon, ainsi compris, n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance divine de Dionysos par l'intermédiaire du vin pur, dont le don maîtrisé est un bienfait, un agathon, soutenu par l'intervention de Zeus Sauveur dans le registre de ses fonctions météorologiques. C'est ce que nous disent à la fois les plaisanteries d'Aristophane, l'étiologie de Diodore, les libations de vin pur associées à l'agathos daimon, et les libations de vin coupé d'eau aux autres divinités du symposium. Et je répète qu'il s'agit de libations, même si certains textes font davantage penser à ce que nous appelons des toasts. La libation, d'ailleurs, n'exclut pas le fait de goûter au liquide. Quand on dit goûter un peu de vin pur, c'est lié à la libation à l'agathos daimon. Donc la libation ainsi entendue est une offrande qui honore un destinataire divin, et la vaisselle inscrite renvoie sans doute à un tel usage rituel. Alors, comme je disais tout à l'heure, par destination, quand l'inscription était indiquée directement sur le vase au moment de sa fabrication, ou en fonction de l'usage dans le cas des graffitis. Et certaines pièces de vaisselle pourraient même avoir eu une dimension proprement cultuelle si elles étaient fabriquées pour un culte dionysiaque spécifique, à l'instar de ce qu'on peut pressentir finalement pour le Dionysion de Thasos, avec cet autel creux et cette inscription, cette norme rituelle qui s'y trouve indiquée. Et je reviens donc dès lors en conclusion à la question posée par Natacha Massard, en l'associant à une autre de ses interrogations. Pourquoi tant de vases à Dionysos ? Dans la série des cantars qu'elle a étudiée, alors que, disait-elle, et je traduis la partie de son article que vous avez en anglais sous les yeux, les auteurs anciens ne mentionnent pas Dionysos en tant que destinataire d'un toast ou d'une libation au banquet. Dès lors, s'interroge-t-elle, même si la présence de Dionysos sur ces coupes correspond bien à leur contenu et à leur probable contexte d'utilisation, la présence explicite du nom du dieu ne correspond pas à ce que l'on sait des moments ritualisés au symposium. Donc vous voyez, il y avait deux questions dans sa démarche. Pourquoi n'a-t-on pas plus de mentions de l'Agathos Daimon? Et sa réponse était, ben, c'est peut-être un vase spécifique, tellement spécifique qu'on n'a pas besoin d'indiquer le nom dessus. Deuxième question, pourquoi tant de vases au nom de Dionysos, si c'est bien une logique de performance rituelle qui préside à cette inscription, alors que dans le dossier que je viens de vous montrer, on n'a pas de mention de libation explicite à Dionysos. Il me semble que la solution de cette apparente contradiction entre sources littéraires et vases inscrits pourrait se trouver dans le texte de Philochore, qui glose en fait l'Agathos Daimon en contexte symposiaque comme vin pur, à savoir la manifestation de la puissance de l'Agathos Theos. Et je ferai donc l'hypothèse, et ce sera la conclusion de cette leçon, que ce sont des cantats au nom de Dionysos lui-même avec lesquels s'accomplissaient les libations de vin pur, même si les paroles accompagnant le geste pouvaient invoquer Agathos Daimon, comme on vient de le voir sur le vase attique fragmentaire redessiné par François Lissarague. Cet Agathos Daimon était tout simplement Dionysos en action, selon le sens de Daimon que nous avons identifié l'année dernière dans la poésie. À cet égard, les noms pouvaient être interchangeables. Et je vous propose dès lors de poursuivre l'enquête sur les actualisations rituelles du Daimon la semaine prochaine, et je vous remercie de votre attention.
C'était les cours du Collège de France où venait d'écouter l'historienne Vinciane Pirène-Delforge, sa série « Dieu, Daimones, héros » partie 2, aujourd'hui Agathos Daimon en contexte dionysiaque. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane Pirène-Delforge. Sa leçon inaugurale, « Le polythéisme grec comme objet d'histoire », a été publiée chez Fayard en 2018. Réalisation, Laure-Hélène Plancher. Stagiaire, Margot Viel. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Demain, Agathos Daimon et Agathe Tuquet, le bon Daimon et la bonne fortune. Belle journée à l'écoute de France Culture.